Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous, un privilège aussi. Et puis, je vais partager avec vous la parole de Dieu par rapport à la louange. Je vous invite d'abord à la prière. Seigneur, on te bénit parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu qui est ressuscité, le Dieu qui parle dans nos cœurs, dans nos vies. Et je te prie que ce matin, tu ouvres nos cœurs, nos âmes, nos esprits à saisir ta parole, à comprendre ce que cela implique pour nos vies. Merci parce que tu veux nous conduire à avancer, à continuer sur ce chemin de foi que tu nous as ouvert. Amen. J'ai 2 mois de présentation, donc je suis marié, j'ai 4 enfants. Nous sommes membres de l'église évangélique des Chalands, qu'elle nous participons régulièrement. Et puis le reste du temps, j'exerce un ministère itinérant dans la louange, en Suisse romande, et en France, en Afrique et au-delà. Voilà, depuis 18 ans maintenant, je creuse ce sujet, je travaille et c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que j'ai jamais fini. Et je découvre encore beaucoup de choses dans la parole et beaucoup de dimensions que je n'avais pas encore connues. Et je crois que c'est une dimension importante pour l'Église. Bien sûr que toutes les églises que je visite connaissent la louange dans une certaine mesure puisqu'elles l'exercent, puisqu'elles la pratiquent, puisqu'elles chantent, puisqu'elles louent Dieu. Mais il y a toujours peut-être quelques aspects qui nous manquent encore ou qu'on a besoin de développer dans nos propres vies ou dans nos vies communautaires. Et moi-même, j'ai démarré un petit peu dans un groupe de jeunes où on chantait beaucoup, on tapait dans les mains, on se réjouissait de louer, sans forcément comprendre toutes les implications de la louange. Et après un petit peu d'expérience spirituelle, j'ai commencé à creuser, à découvrir que la Bible était vraiment pleine de louanges. Et puis c'est ça qui m'a motivé aussi à aller de l'avant et à aller plus loin dans ce domaine-là. Que Dieu ne se satisfaisait pas seulement d'un petit temps de chant, mais que la louange avait une ampleur beaucoup plus grande que cela. Alors je partage avec vous un certain nombre de textes et de versets qui nous le décrivent, qui nous le disent dans la parole. Et je vais commencer par Hébreux 13, au verset 15, qui est un verset très important. Donc Hébreux, chapitre 13, verset 15, nous dit, c'est un verset fondamental du Nouveau Testament, « Offrons donc sans cesse à Dieu, par Jésus, notre louange comme un sacrifice, c'est-à-dire louant sans cesse son nom de nos bouches. » Donc dans ce texte que j'ai lu en français courant, on a déjà beaucoup de choses importantes qui sont relatives et liées à la louange. Donc Paul exhorte les Hébreux à dire à offrir vos corps et sans cesse à Dieu. Donc il parle déjà d'une offrande. La louange, c'est une offrande. C'est quelque chose qu'on donne gratuitement, comme un cadeau. Et déjà là, ça va déjà pas mal à l'encontre de notre vécu, de notre société, du système économique dans lequel on vit. Parce qu'on ne nous donne pas beaucoup de choses gratuitement. Et on n'en reçoit pas beaucoup gratuitement. Mais l'amour de Dieu, vous l'avez tous reçu, je l'espère, gratuitement. Hein? Si vous l'avez reçu, c'est gratuitement. Vous n'avez pas pu l'acheter. Vous n'avez pas pu aller dans un supermarché, même évangélique ou religieux, pour acheter cet amour, pour acheter ce pardon, pour acheter cette grâce, vous l'avez reçue. Et notre réponse en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'offrir aussi gratuitement. C'est de donner en retour. Et la louange, c'est une des choses fondamentales, c'est pas un élément de troc ou d'affaires commerciales. C'est vraiment une offrande, un cadeau volontaire que nous donnons à Dieu. Et Paul exhorte les Hébreux à le faire. Et je crois que Dieu aussi aujourd'hui nous exhorte tous, et l'Église est exhortée d'une manière globale sur la terre à offrir en retour sa louange à Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais comment peut-on remercier Dieu? Comment peut-on lui donner quelque chose qui vaut ce que lui nous a donné? Car moi, plusieurs fois, je me suis posé la question, je dis, mais Dieu t'a tellement fait pour moi, comment je pourrais être... Ah, puis on est focalisé par cette mentalité justement économique qu'on aimerait pouvoir rembourser à quelque part. Ou payer quelque chose qui a de la valeur. Et en fait, on voit très bien, très rapidement, qu'on n'arrive pas à avoir quelque chose qui a suffisamment de valeur. Si ce n'est ce que Dieu accepte, qui est notre louange. Et pour Dieu, notre louange a une valeur très très importante. Beaucoup plus peut-être même que nous, on le pense et on le croit. Donc cette offrande, elle n'est pas comme ça, à bon marché, rapide, facile, quoi. C'est une offrande profonde, réelle, quand elle vient vraiment de notre cœur. Et quand elle est sincère, Dieu l'accepte vraiment. Alors cette offrande, il est dans ce texte, on peut l'offrir sans cesse. On me pose souvent la question dans des rencontres, dans des séminaires de louanges, mais quand c'est qu'il faut louer Dieu? Quel est le bon moment? Qu'est-ce qui est propice? Et puis chaque église, chaque communauté a développé son propre système. Bien sûr, le dimanche matin est un moment favorable, mais chacun a choisi peut-être d'autres moments dans la semaine ou dans son système pour offrir. Mais quand on lit ce texte, et beaucoup d'autres bien sûr dans la parole, il nous est dit qu'on peut offrir sans cesse. Donc moi j'aime bien cela parce que finalement ça enlève toutes nos limites. Toutes les limites qu'on pourrait mettre. Oui, mais aujourd'hui, tu sais, c'est pas le bon jour. Tu vois, là je suis fatigué, là c'est la nuit, là... Non, sans cesse, il n'y a pas de limite. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on cesse de travailler, qu'on cesse de vivre, qu'on s'enferme dans un endroit et qu'on ne fait que de prier. Non, ça veut dire que justement dans notre vie courante, dans notre réalité, dans nos matinées, dans nos journées, dans nos nuits, on peut offrir sans cesse à Dieu cette louange. À l'instant où tu y penses, tu peux l'offrir. Quelquefois, en pensant aussi à la prière d'une manière générale, tu dis, ah, il ne faut pas que j'oublie de prier. Il faudrait bien que je pense à prier pour telle et telle personne. Maintenant, au lieu de penser à le faire, je le fais tout de suite. Hein? Au lieu de dire, ah, je me réjouis de dimanche où je pourrais louer Dieu. Mais tu peux déjà louer Dieu maintenant. À l'instant où tu as cette pensée-là, Seigneur, je te bénis parce que tu es vivant. Je te bénis parce que tu es présent ici dans mon bureau. Je te bénis parce qu'ici dans ma maison, tu veux régner. Et chaque occasion, je te bénis parce que c'est un nouveau jour qui se lève où je peux te servir, je peux te servir et je peux te louer. Donc, il n'y a pas de limite à la louange. C'est très important cela. Et ensuite, il nous a dit, cette louange, je prends vraiment ce texte en détail, phrase après phrase, on peut l'offrir sans cesse par Jésus. Bien sûr que ça passe par l'acceptation du sacrifice de Jésus. Et qu'on a besoin d'avoir reconnu Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, pour pouvoir le faire. Ça me semble évident à dire dans une église, mais cependant, c'est bien de se le rappeler et de se confirmer. C'est au travers de Jésus, c'est pas par nous-mêmes qu'on le fait. C'est parce que Jésus nous a sauvés, nous a délivrés. Et ensuite, il nous parle de cette louange qui est offerte comme un sacrifice. Et c'est intéressant, parce que la Bible parle beaucoup de sacrifices. Mais spécialement dans l'Ancien Testament, on a des descriptions, on a des livres entiers qui nous racontent les sacrifices, la manière de les offrir, la forme du sacrifice, la durée du sacrifice, la quantité, selon certaines activités, selon certaines attitudes, selon certaines vécu. Et puis là, dans le Nouveau Testament, ben on a bien sûr Jésus et son sacrifice, qui est fondamental, qui est le centre de la parole de Dieu. Mais maintenant, en référence à tout cela, Paul dit, offrez votre louange comme un sacrifice. Donc vous imaginez, les Hébreux, ils connaissaient les sacrifices. C'était dans leur histoire, c'était dans leur culture. Il dit, mais comme un sacrifice, ça veut dire qu'on doit de nouveau aller au temple, qu'on doit de nouveau prendre un animal, le brûler. Mais comment ça marche? Alors dans le Nouveau Testament, et pourtant, il y a plus cette demande-là. Mais c'est bien dit comme un sacrifice. Ça veut dire que la clé, c'est l'esprit du sacrifice. C'est de le faire de la manière d'un sacrifice. Quand dans l'Ancien Testament on apportait un sacrifice, il y avait plusieurs choses. Il y avait déjà la décision d'aller au temple. Il fallait se bouger, il fallait se déplacer. Ensuite, il y avait quelque chose à apporter. Pour ceux qui venaient de loin, ils ne pouvaient peut-être pas amener avec eux leurs animaux, le prix de leur sacrifice, donc ils prenaient de l'argent et au temple, ils savaient qu'il y avait les vendeurs autour du temple qui proposaient les sacrifices. Donc ils achetaient et puis ensuite, ils offraient les sacrifices. Donc il y avait une valeur. Et je crois que l'idée et l'enseignement qu'on a dans ce texte, c'est que aujourd'hui Dieu attend une louange qui a un prix, qui vaut quelque chose. Pas juste une petite louange, je dirais, à bon marché, facile. Oui, Dieu, je t'aime, tout va bien. Mais une louange comme un sacrifice, c'est justement une louange qui nous coûte quelque chose. Et comme j'aime à le dire souvent, c'est facile de louer Dieu quand tout va bien. Quand on est en pleine forme, quand on est béni, quand tout va bien, dans nos relations, on a un bon travail, un bon salaire, des belles vacances, tout est merveilleux. Et puis, malheureusement ou heureusement, notre vie n'est pas toujours comme ça. Et je crois que ça nous permet de rester connectés justement à Dieu. Parce que quand on est comme ça, bien béni, on a tendance à oublier, à mettre de côté Dieu lui-même, qui est celui qui nous a donné toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Donc, quand il y a des difficultés, des combats, des luttes, des émotions difficiles, des relations difficiles, quelle est notre louange à ce moment-là? Et j'aime à dire et à voir et à constater que quand les circonstances sont plus difficiles, notre louange, qui est plus difficile, elle va porter plus de fruits. Parce que justement, ça devient un sacrifice. Un sacrifice peut-être dans nos émotions, dans notre temps, de dire, mais Seigneur, je te loue quand même. Je vais te bénir parce que malgré ceci, malgré cette situation, je sais que tu es là. Et l'exemple fondamental dans la parole, bien sûr, c'est Job. Hein? Qui d'entre nous peut se comparer à Job? Des fois, on est prétentieux. Hein? T'as envie certaines choses, dis oui, mais c'est comme Paul, oui, mais c'est comme Job, oui, mais... Je crois qu'il faut qu'on fasse attention à nos comparaisons. Mais cependant, ça nous donne un peu, ça met la barre assez haut pour nous. Hein? Job, qui avait tout, est tenté, est testé. Parce que c'est bien sûr Satan qui teste sa vie. Hein? Et c'est clairement dit dans la parole, dans le texte, où Satan vient devant Dieu et dit, mais c'est normal qu'il te loue, qu'il soit un bon chrétien et qu'il le bénisse. Arrête de le bénir, puis on va voir. Et Dieu prend le risque. Il dit, mais j'ai confiance en Job. Et je crois que des fois, Dieu prend aussi le risque avec nous, de nous tester. C'est-à-dire, mais je vais voir s'il va être fidèle. Et c'est dans son amour pour nous faire grandir en maturité, en autorité, qu'il le fait. Et dans cette situation-là, eh bien, qu'est-ce qu'il dit Job, alors qu'il avait tout et qu'il n'a plus rien, mais vraiment, plus rien, hein, il dit, Job 1, verset 21, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors moi je me dis, j'ai jamais eu autant que Job, mais j'ai jamais perdu tout ce qu'il a perdu non plus. Donc je ne veux pas attendre d'être dans cette extrémité-là pour me mettre à louer Dieu. Et quand je considère certaines de mes difficultés, de mes circonstances, ouais, c'est pas facile, je me dis, malgré tout, j'ai encore de la marge. Je peux encore louer Dieu. Parce que Dieu reste le même. Parce que Dieu est toujours bon. Parce que Dieu est toujours fidèle. Et je crois que cette notion-là du sacrifice dans la louange, on va tous y goûter une fois ou l'autre. Et puis c'est notre choix, c'est notre liberté de le faire ou pas. Mais quand on le fait, et je peux vous témoigner dans ma propre vie, mais je le sais aussi de l'avoir entendu et témoigné de plusieurs autres personnes, quand tu loues Dieu dans les circonstances contraires, difficiles, obscures, ça prend une force dans ta vie. Ça te donne une autorité face à ces circonstances. Ça te donne vraiment, c'est ce que Dieu veut pour nous. Offrir notre louange comme un sacrifice. Et puis ensuite, il le décrit dans ce texte, il dit, c'est-à-dire, louons sans cesse son nom de nos bouches. Ça veut dire que la louange, elle ne reste pas à l'intérieur. Cette louange, elle s'exprime. C'est ça que Dieu nous a donné le moyen de nous exprimer par nos bouches, par nos prières, par nos paroles, mais aussi par nos chants, par nos musiques. Et tout ça, c'est un tout, on ne peut pas se séparer. Mais encore une fois, il insiste parce qu'il dit, louez sans cesse. Donc que votre bouche soit remplie de louanges. Comme dit aussi le psaume, plusieurs psalmistes disent que ma bouche soit remplie de tes louanges. On a besoin que cette louange sorte de nos bouches. Hein? Et quand on dit oui, mais moi je loue Dieu intérieurement, je me méfie un petit peu de ce genre de paroles, parce que la Bible parle aussi que de l'abondance du cœur sort nos paroles. Hein? Nos paroles sortent de ce qu'il y a dans notre cœur. Donc si dans ton cœur tu as ta louange, ça va sortir. Ça a besoin de sortir. Et c'est vraiment ça que Dieu attend de nous. C'est une très bonne définition. Gardez en tête ce verset, Hébreux 13, verset 15, qui dit tellement de choses importantes. Il y a aussi le mot confession. Confession. Hein? Confessons son nom de nos bouches. Dans une autre traduction, c'est la traduction littérale. Et je crois que c'est aussi ça qui est important. Quand on dit quelque chose, ça veut dire qui on est et où on se situe par rapport à cette chose-là. Hein? Et Jésus l'a bien dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Donc c'est important, notre témoignage, notre confession. Et chaque fois qu'on prie, chaque fois qu'on loue, on fait une confession publique. Que ce soit à la maison, que ce soit seul, que ce soit avec nos amis, ou bien sûr en communauté, en église, avec nos frères et sœurs. Quand nous proclamons cette parole, nous confessons son nom de nos bouches. Et c'est un témoignage public devant nos frères et sœurs, bien sûr, devant nos enfants, devant nos parents, devant notre mari, devant notre femme, mais aussi devant les anges, devant les puissances des cieux. Hein? C'est une confession qui est fondamentale, qui est vraiment importante. Donc, il y a beaucoup de choses. Je crois que parfois, on ne considère pas ça. On dit, bon, on va chanter, comme j'entends dans beaucoup d'églises, on va chanter en attendant que les derniers arrivent, en attendant que le prédicateur arrive, pendant que, pour que, et puis on oublie de réaliser que la louange en soi, telle qu'elle, sans attendre rien d'autre, ça a une valeur. Pour nous, et pour Dieu surtout. Parce que la clé aussi, c'est cette relation qu'on a avec Dieu. Et que Dieu, en tant que Père, en tant que personne, attend la communion avec ses enfants. Et vous connaissez aussi ce texte, on va voir ensemble de 1 Pierre. 1 Pierre 2, verset 9, c'est aussi fondamental ça, qui nous dit qui on est, quelle est notre position aujourd'hui spirituelle. 1 Pierre 2, 9, mais vous, vous êtes la race choisie ou élue, les prêtres du roi, ou les sacrificateurs, hein, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous avez été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu qui vous a appelé à passer l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Vous, et c'est à tout le monde qui s'adresse, à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, vous avez été choisis. Déjà là, c'est important de dire, oui Seigneur, comme on en parlait hier dans le séminaire de louange, des fois on pense que Dieu il choisit juste notre voisin ou notre voisine, mais juste pas nous, hein, on va juste passer à côté. Et pourtant Dieu nous a tous choisis individuellement, personnellement. Il nous a appelés par notre nom. Il connaît le nombre de cheveux de notre tête. Donc il nous connaît. Et il nous a choisis. Et il nous a appelés à être des sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, on avait une tribu de sacrificateurs, c'était les Lévites, ils étaient une tribu sur 12. Mais dans le Nouveau Testament, on est tous des sacrificateurs. Donc ne nous cachons pas derrière notre position, derrière notre rôle, derrière notre identité, derrière notre art, derrière notre culture, pour dire, c'est pas pour moi. Ça c'est pour les jeunes, ça c'est pour les anciens, ça c'est pour les enfants, ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les Africains. Non, on est tous appelés à être ces sacrificateurs du roi. Et c'est un privilège, n'est-ce pas? On est appelés à être dans le palais royal, au service d'un grand roi. Dieu l'a choisi. Pourquoi? Pour proclamer les œuvres magnifiques de Dieu. Alors bien sûr que ça peut être un texte utilisé pour l'évangélisation, pour nous dire qu'on doit aller annoncer. Mais la louange, combien de fois aussi je l'ai constaté, c'est un instrument d'évangélisation. Parce que quand tu loues Dieu, tu proclames les merveilles de Dieu. Et les autres l'entendent. Et d'ailleurs, la musique de louange a été utilisée. Tout ce qu'on entend aujourd'hui comme le gospel, hein, que les Américains, en partie prioritairement des Noirs, chantaient, c'était des chants de louange. Tout ce qu'ils chantaient à Dieu, c'était leur louange. Puis après, ça a pris une telle ampleur dans leur émotion, dans leur transmission de cette louange, que le monde a été intéressé, a été touché par cette musique. Mais au départ, c'est une musique de louange. Hein? Alors c'est devenu un style de musique que certains prennent juste comme style culturel, mais dans le fond, c'est une louange qui est une proclamation. Et pour en avoir rencontré plusieurs de ces groupes-là ou ces gens-là, pour eux, ils savent très bien où ils vont. Ils ne sont pas là juste pour faire de la culture, mais vraiment pour faire de la louange à Dieu. Et ils savent que quand ils se déplacent dans une ville, dans un endroit, bien sûr, ils veulent proclamer les louanges de Dieu, chanter sa gloire. Donc, vous êtes tous des prêtres. Alors, comme j'entends parfois des chrétiens me dire, mais moi, je ne sais pas quel est mon ministère. Je me demande à quoi je sers, qu'est-ce que je pourrais faire pour Dieu. Je crois qu'il y a beaucoup de choses déjà toutes simples que Dieu nous demande de faire. Et entre autres, d'être des sacrificateurs. C'est un ministère qui est pour tout le monde. Offrir nos louanges, offrir nos prières, notre intercession, c'est pour tous les chrétiens. Ce n'est pas un ministère spécifique réservé à une élite. Hein. Et puis bien sûr, dans le Nouveau Testament, il nous a donné aussi un autre ministère, qui est le ministère de la réconciliation. Et c'est pour tous aussi. Vous êtes tous appelés à la réconciliation. Réconcilier les hommes avec Dieu, réconcilier les hommes entre eux. C'est aussi à tous notre ministère. Donc avant de rêver d'un autre ministère, exercez déjà ces deux ministères qui sont des merveilleux ministères et que Dieu nous appelle tous à faire et à vivre. Donc, toutes ces dimensions-là déjà nous donnent une responsabilité par rapport à la louange. N'attendez pas que la louange vous tombe dessus. N'attendez pas qu'elle soit fabriquée par quelqu'un d'autre, mais la louange, elle va venir de vous. Et vous pouvez avoir le meilleur groupe de louanges, les meilleurs musiciens, les meilleurs chanteurs, c'est pas ça qui va faire votre louange. Parce que vous pouvez très bien rester spectateur. Ah, ils chantent bien, ils jouent bien. Ou ils chantent mal, ils jouent mal. Ça ne change pas le problème. Le problème, c'est ton cœur, c'est ton choix à toi. Est-ce que moi, je loue Dieu malgré tout? Si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas, c'est pas ça le problème. C'est, je suis un prêtre, je suis un sacrificateur, et si je suis là, c'est pour offrir ma louange à Dieu. Alors bien sûr qu'il y a la musique, qu'il y a les chants qui nous aident, mais s'il n'y a plus de musique, s'il n'y a plus d'instruments, est-ce que la louange s'arrête? C'est ça la grande question. Hein? Parce que des fois on est tellement focalisé sur le style, sur la forme qu'on a développée dans nos églises, qui est très bien, qui est tout à fait nécessaire d'être ensemble pour chanter et jouer, mais il y a des circonstances dans nos vies, on n'a pas des musiciens, on n'a pas quelqu'un qui nous entraîne, et puis Dieu attend quand même notre louange. Et c'est plutôt la plus grande partie de notre vie, c'est comme ça. Hein? La plus grande partie de notre vie, on ne la passe pas à l'église le dimanche matin. On la passe à la maison, on la passe au travail, on la passe dans nos relations, dans notre vie courante. Et dans ces moments-là, notre louange aussi est nécessaire pour nous et pour Dieu. Et Dieu l'attend. Imaginez dans votre relation de couple, j'imagine ça, je dis à ma femme, écoute, on va se voir samedi prochain entre 4 et 5. Et là, je vais te dire que je t'aime. J'ai des choses importantes à te dire. Prépare-toi. Elle me dit, mais si je dis ça lundi, je vais dire, mais c'est trop tard, c'est trop long, je ne vais pas attendre jusqu'à samedi. Dis-moi que tu m'aimes, avant. Hein? Attends, je vais réfléchir, je vais voir. Hein? Non, ça ne va pas tenir notre couple. Notre relation humaine ne va pas fonctionner. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. Si on attend que dimanche matin pour dire à Dieu qu'on l'aime, qu'on veut le suivre, qu'on veut le servir, c'est trop long. Bien sûr, Dieu est tellement bon et plein de grâce qu'il va attendre. Parce que Dieu, il n'est pas frustré. Ce n'est pas un humain. Peut-être ma femme, elle sera frustrée. Moi, je serai frustré. Mais pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas frustré dans son amour. Il est bien dans sa peau, Dieu. Ça peut dire ça comme ça. Mais il aime la louange. Et il l'attend. Et il veut la recevoir. Et il sait combien pour nous c'est nécessaire de lui donner notre louange. Donc n'attendez pas dimanche matin. Et dimanche matin, c'est juste le rassemblement de toutes les louanges qu'on a pu offrir à Dieu, de notre semaine, de notre vécu, de notre réalité, de notre relation avec Dieu. Aussi de nos doutes, aussi de nos questions, mais à un moment donné, on vient ensemble et on partage tout cela. Mais développer cette relation personnelle avec Dieu. Dieu l'attend, et aussi dans la louange. Pas seulement dans la demande, dans l'intercession, ça, on a plus de facilité, parce qu'on a toujours tellement de besoins. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, fais ci, fais ça, protège-moi, garde-moi, conduis-moi, ça vient tout seul. Hein. Il y a des moments où on doit laisser tout ça de côté. Et se dire, ok Seigneur, je sais que tu es là. Je vais déposer mes doutes, mes questions. Et ayant aussi fait cette expérience, parfois, j'avais toute une liste de choses à demander à Dieu, je dis, mais je vais commencer par le louer. Je dis, mais à le louer, Seigneur, merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu me gardes, parce que tu gardes mon départ, mon arrivée. Et une fois que j'ai fini de louer, je me suis dit, mais j'ai plus de demandes à faire. Parce que tout ça, j'ai déjà reçu dans la louange. Je sais qu'il était là et qu'il va prendre soin de toutes ces demandes-là. Et je peux me mettre ensuite à entrer dans une vraie intercession où c'est pas prier pour moi, mais c'est prier pour les autres. Et ça donne une autre dimension, n'est-ce pas? Et je crois qu'on a besoin de découvrir cette dépendance de Dieu, cette relation avec Dieu qui nous permet de le mettre vraiment à la première place. Donc, une chose importante à réaliser, et les psaumes nous le disent très souvent, la louange, l'adoration, c'est un choix. C'est un choix. Ce n'est pas un sentiment, une émotion. Et c'est peut-être à cause de nos chants, à cause de la musique, qu'on a un petit peu lié cela à de l'émotionnel. On dit, ah, il y a ce chant qui est chanté, j'aime bien ce chant. Ah, ça me touche, cette mélodie. Et puis, on reste dans l'émotionnel. Bien sûr que Dieu touche nos émotions. Bien sûr que nos émotions peuvent aussi être exprimées. Mais la louange, c'est un niveau supérieur. C'est un niveau spirituel. C'est dans l'esprit qu'on loue. Ça veut dire justement que des fois, nos émotions ne sont pas portées vers la louange. Mais que notre esprit prend le dessus sur nos émotions. On dit, oui, Seigneur, je vais te louer quand même. Oui, Seigneur, je vais te bénir quand même. Parce que tu es bien plus grand que même ce que je peux vivre ou ressentir. Donc, ça devient important quand on se met à choisir de louer. Et vous lisez les psaumes, vous allez voir combien de fois c'est écrit « Je bénirai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Que sa louange soit toujours dans ma bouche. » Psaume 34, par exemple. Psaume 146. Psaume 57. Et tant d'autres. Et dans les psaumes, je les ai étudiés pas mal en détail, il y a 50% de psaumes, c'est « Je » et 50% « Nous ». Donc ça veut dire, il faut être en communauté, il faut être ensemble pour louer Dieu. Nous sommes assemblés pour te louer. Nous venons dans ta maison pour t'adorer. Mais aussi, je te loue, je te louerai, je te bénirai. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103. Hein? Là, c'est un matin où David, il s'est levé peut-être du pied gauche, un peu fatigué, hein? Mal à la tête. Et, oh là là, ça va être dur ce matin. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être que c'est ça qu'il sentait dans ses émotions, mais il s'exhorte lui-même. Il parlait tout seul. Hein? Ça vous arrive de vous parler à vous-même des fois? Ben, les psalmistes disaient ça. Il se dit, vas-y mon âme, loue l'Éternel. T'as peut-être pas envie, t'es fatigué, mais loue l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire, rappelle-toi. Peut-être qu'en ce moment, tu sens pas ce que Dieu fait. Tu vois pas ce que Dieu fait, mais n'oublie pas ce qu'il a fait. Et des fois, on doit revenir dans le passé pour se souvenir certaines choses. Parce que dans le présent, on n'a pas une réalité qui nous permet, mais il y a au moins le passé. Il y a des événements marquants de notre vie. Et ce n'est pas dans notre vie, dans la vie de ceux qui nous ont précédés, où Dieu était fidèle, où Dieu était bon, où Dieu s'est souvenu, où Dieu est intervenu. Et Israël faisait ça souvent aussi. Toutes les fêtes d'Israël sont liées à souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Souvenez-vous comme il nous a sortis d'Égypte, comme il a jeté à la mer cheval et cavalier. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait ceci et cela. Voilà pourquoi on peut le louer encore aujourd'hui. Alors il ne faudrait pas qu'il n'y ait que de la louange souvenir, parce qu'on se dit, mais bon, alors Dieu nous a oubliés depuis. Hein? Il y a aussi une louange qui doit être basée sur la réalité de notre vie. Seigneur, tu as agi dans ma vie, tu es présent aujourd'hui. Mais les deux vont ensemble. Donc n'oubliez pas, c'est un choix. Et ce choix n'est pas basé sur vos émotions, mais sur la foi. Certaines personnes disent, oui, mais moi j'ai l'impression d'être hypocrite de louer Dieu alors que je ne ressens rien. C'est clair que parfois nos émotions, nos sentiments ne vont pas dans le bon sens. Mais justement, c'est là où on a besoin de comprendre les priorités et de savoir qu'est-ce qui domine ma vie, qu'est-ce qui dirige ma vie. Est-ce que ce sont mes émotions ou est-ce que ce sont ma dimension de foi, ma dimension spirituelle, l'Esprit, le Saint-Esprit en moi qui va prendre le dessus sur ces émotions-là. Alors on a tous, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis. Hein. On ne peut pas dire, oui, maintenant moi je vis dans l'Esprit, l'Esprit me conduit, j'ai plus d'émotions ou bien elles sont bien enterrées. Ça serait peut-être même dangereux. Mais justement, dans la réalité de nos émotions, de nos questions, de nos doutes, de notre vécu, il y a la dimension spirituelle qui vient là, qui illumine, qui éclaire et qui nous permet de passer au-dessus de cela. Donc la louange, ça représente beaucoup de choses, finalement. C'est aussi une attente de Dieu, un ordre de Dieu, qui nous invite à le faire. Hein? Plusieurs fois dans les psaumes, il nous le dit, « Bénissez-moi, louez-moi. » Adorez-moi, peuple, bénissez Dieu. Donc Dieu nous appelle à la louange, constamment. Cet appel retentit dans les cieux. Les anges appellent à la louange. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont venus annoncer Jésus, hein, annoncer la naissance du Sauveur? Ils louaient et ils appelaient les hommes à la louange. Et je crois que c'est le ministère principal des anges, c'est de louer et d'appeler les autres aussi à se joindre à cette louange. Et je crois que c'est l'appel de tous ceux qui sont dans la louange et même de tous les chrétiens. Si vous êtes un adorateur, quelqu'un qui louait Dieu, et je dis bien exprès pas un louangeur, parce que la Bible ne parle pas des louangeurs. Les louangeurs sont ceux qui donnent les louanges sans discernement. C'est ce que le dictionnaire nous dit. Donc j'espère pas que vous êtes des louangeurs. Vous ne donnez pas vos louanges comme ça sans discernement, mais que vous êtes des adorateurs. C'est-à-dire des gens qui allaient obéir à Dieu pour le servir. Donc si tu es un adorateur, quand tu adores Dieu, tu invites les autres à adorer. Ça c'est inévitable, je dirais. C'est la conséquence normale. Alors peut-être certains ne voudront pas le faire. Et j'ai pu faire l'expérience très souvent dans mon ministère de louange. Au début, quand je me suis converti, on avait très séparé les choses. Vous voyez, 77, 80, comme ça, on avait les groupes de louange et les groupes d'évangélisation. Et quand il y avait, attention, il y a une réunion, on va inviter les non-chrétiens, on va faire l'évangélisation. Puis alors pas de louange, parce qu'ils vont être mal à l'aise. Hein? Puis on garde la louange quand il n'y a que des chrétiens. Mais vous pouvez savoir s'il n'y a que des chrétiens dans la salle. C'est pas facile, hein, toujours à savoir. Et petit à petit, mais Dieu nous a révélé beaucoup de choses sur la louange, nous a éclairé sur ce sujet. Et puis j'ai senti que je devais développer ce secteur-là, travailler à cela. Je me suis trouvé dans une situation où il y avait plein de non-chrétiens qui étaient là. Et puis moi, j'avais prévu de faire la louange parce que c'était pas censé, ils n'étaient pas censés avoir des non-chrétiens. Et je ne pouvais pas changer de programme, changer mes chants, m'adapter et tout. Un petit peu, mais j'ai dit, bon Seigneur, on va te louer quand même. Hein? Et j'ai vu combien de fois des gens ont été touchés par la louange des chrétiens. Parce que si tu es non-chrétien dans une salle de louange et que des gens louent vraiment Dieu, qui ferment les yeux, qui lèvent les mains, qui adorent, qui prient, tu as deux réactions. Soit tu dis, bon, ils sont complètement fous, je suis tombé dans une secte, je m'en vais en courant. Ou bien, et c'est souvent l'autre réaction, mais ils parlent à qui? Où est Dieu? Qui est Dieu? Où est-ce que moi je me situe par rapport à Dieu? Est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Et commence à être interpellé par Dieu qui est présent au milieu des louanges de son peuple. Et c'est ça la clé. Psaume 22, verset 4. Quand on loue Dieu, Dieu vient. Et c'est ça que j'attends. Et c'est ça que je recherche. C'est à cela que j'aspire. Seigneur, viens au milieu des louanges de ton peuple. Si tu n'es pas là, ça ne sert à rien. C'est comme d'aller en mariage, puis les mariés ne sont pas là. Hein? Il y a un problème. Non, on loue Dieu parce qu'il est là. On ne loue pas en espérant, en imaginant que peut-être il viendra. Non, Dieu est présent au milieu des louanges de ton peuple. Et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va être interpellé par rapport à sa relation à Dieu. Et j'ai vu plusieurs fois le témoignage dans des réunions de louanges qu'on organisait par exemple au Palais de Beaulieu à Lausanne ou à Neuchâtel. Plusieurs personnes qui sont venues, qui ont été invitées par des amis, des copains d'école. Je me souviens d'une fille qui d'ailleurs maintenant souvent chante avec moi. Elle dit, oh, j'ai été une soirée louange, une copine de l'université m'a dit, viens avec moi. Je dis, c'est quoi? C'est une soirée louange. C'est quoi? Ben viens, tu verras. Bon, pas beaucoup d'explications, elle est venue. Elle dit, mais quand ils ont chanté, il y avait 1000 personnes dans la salle, au Temple du Bas à Neuchâtel. Les gens chantaient, disaient, mais ça m'a bouleversé. Pendant tout le message, ça me frappait, quoi. Je posais des questions, je réfléchissais. Et à peine le message était fini, j'ai couru devant pour qu'on prie pour moi, pour demander la prière. Je ne me souviens plus du nom du prédicateur, je ne me souviens plus de ce qu'il a parlé. Dommage pour lui, mais... Hein? Dieu l'a touché d'une autre manière. Mais ce prédicateur était sûrement excellent et a enseigné beaucoup de chrétiens. Mais cette personne-là a été touchée par la présence de Dieu. C'est ça qui l'a touché. Ce n'était pas les belles voix, ce n'était pas les belles mélodies, c'était la communion, la relation avec Dieu. Et je crois que ça, c'est une des clés dans cette adoration, c'est que Dieu vient, et que si Dieu est là, il peut se passer beaucoup de choses, et que nos cœurs peuvent être changés, et qu'on doit s'attendre. Et ça va même plus loin que ça, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Quand le psalmiste crie, dans 2 Samuel, même 22, c'est David qui dit, « Je m'écris loué, soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Hein, on l'a chanté, on l'a proclamé, mais c'est une réalité, je pense que vous en avez fait l'expérience. Il y a des fois, on sait que, non, maintenant, je vais louer l'Éternel, je vais le bénir. Je ne vais pas me laisser prendre par ses ennemis, par ce doute, par cette culpabilité, par cette condamnation. Parce que si on reste dans cet état d'esprit-là, on ne va pas pouvoir louer. Mais à un moment donné, il y a un cri de louange qui sort de nos vies, de nos cœurs, notre esprit, et ces choses tombent. Cet ennemi est éloigné. Et puis bien sûr, en Israël, ils ont même eu réellement un vrai combat où la louange était utilisée. Dans 2 Chroniques 20, 21, hein, Josaphat, il a eu cette stratégie de Dieu. C'était une fois, ce n'était pas chaque fois. Mais là, en l'occurrence, Dieu leur a dit, allez avec les louanges, sortez au devant du combat. Il n'y a pas beaucoup d'armées dans cette terre qui feraient ça aujourd'hui. Hein. Mettez les meilleurs chanteurs devant, puis les soldats derrière. Quand même bizarre comme stratégie. Mais la stratégie, elle a été payante parce que c'était en obéissance à Dieu, dans la foi de ce que Dieu allait faire. Et Dieu est intervenu pendant la louange. C'est marqué dans ce texte, c'est intéressant, 2 Chroniques 20-21, au moment où il commençait la louange, Dieu jeta la confusion dans le camp de l'ennemi. Au moment, il n'a pas dit, ah bon, quand ils auront bien chanté pendant 2 heures, ils n'auront plus de voix, je vais peut-être faire quelque chose. Non, Dieu est intervenu tout de suite en réponse à leur obéissance et à leur foi. Et je crois que ça, c'est une des portées aussi puissantes de la louange aujourd'hui, c'est que ça nous donne la foi, et mais Dieu se manifeste au travers de notre obéissance dans la foi. Donc je vous encourage aussi, vous, dans votre vie personnelle, à faire ce choix. Quand il y a des circonstances difficiles, quand il y a des ennemis, quand vous êtes assaillis, faites le choix de le célébrer, de le louer et de le mettre à la première place. Parce que finalement, ce qu'on découvre dans la louange, dans l'adoration, c'est qu'on met les choses à leur place. Et je crois qu'on a besoin souvent de remettre les choses en place. C'est-à-dire, où est Dieu et qu'est-ce qu'il est et quelle est sa place dans ma vie? Est-ce que c'est la roue de secours, l'option qui peut me dépanner en cas de problème, ou est-ce que c'est vraiment le moteur, le volant, celui qui dirige les choses, qui fait avancer les choses, hein? C'est ça aussi la grande différence. Quand je loue Dieu, je reconnais ma faiblesse. Je reconnais ma petitesse, je me dis, mais Seigneur, waouh, qu'est-ce que tu es grand. Quand je vois le ciel, œuvre de tes mains, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Psaume 8, c'est David qui le cite. Quand je vois toutes les étoiles, vous savez que les étoiles, il y en a pas mal, hein. À l'époque de la Bible, ils voyaient les étoiles sans télescope, sans jumelles. Même là, ils étaient impressionnés. Il y a beaucoup d'étoiles, c'est merveilleux. Quand Abraham a vu les étoiles, il a dit, c'est merveilleux, cette descendance que tu vas me donner. Et on a calculé, aujourd'hui, les scientifiques ont calculé, avec l'œil nu, on peut compter 6000 étoiles. Bien sûr, vous savez qu'il y en a plus que cela. Vous savez combien il y a d'étoiles dans notre galaxie? Il y a peut-être des scientifiques, des gens qui étudient, qui savent ça. Personne n'a une idée. Un chiffre, par hasard. Quelques milliards. Oui, quelques milliards, exactement. 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie. C'est pas mal quand même, hein? Quand tu vois le ciel, tes mains, les étoiles, tu as fait. Et pourtant, maintenant, on a découvert les scientifiques avec leurs grands télescopes sophistiqués, les ordinateurs, qu'il n'y avait pas seulement une galaxie, qu'il y avait plusieurs galaxies. Ah bon? Mais c'est plus grand qu'on pensait, hein? Ça se rapproche presque de l'infini. Il y a combien de galaxies? Vous savez combien il y a de galaxies? 2, 3, 5, 10. 50 milliards de galaxies. Actuellement, d'après les derniers chiffres, un scientifique. Ça, c'était même des chiffres il y a 2 ans, donc entre-temps, ils ont peut-être trouvé d'autres. Hein. Ça augmente, c'est en expansion en plus. Donc, quand Dieu nous dit, tu peux donner des noms aux étoiles de la terre, du ciel, pardon. Tu peux passer toute ta vie, et chaque minute donner un nom à une étoile, tu n'auras encore pas fini à la fin de ta vie. Parce que Dieu a fait 8 milliards de galaxies d'étoiles par habitant. Hein. Ça vous va? Ça, c'est la grandeur de Dieu, c'est la puissance de Dieu. On est complètement dépassé. Et on a besoin de réaliser ça. Quand on l'adore, finalement, on se dit, mais moi, je suis quoi, un petit homme? Hein? devant ce grand Dieu créateur de l'univers, de la terre et des cieux. Et puis moi, je peux le louer. Alors, il faut saisir ce privilège. C'est un privilège, c'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité. Mais toujours mettre Dieu à sa place. Alors que c'est de plus en plus difficile dans notre société, dans notre mentalité, dans notre culture, où l'homme devient Dieu. Où l'humanisme a pris tellement de place, où on élève l'homme. Où l'homme se fait son Dieu à sa propre image. Où le Nouvel Âge nous dit, mais c'est le Dieu qui te convient. Et puis on le fait tout petit, ou peut-être plus ou moins grand, mais on le fabrique comme il nous arrange. Puis nous, on reste maître de la situation. Alors, moi, je contrôle tout. Hein? Ni Dieu, ni maître. C'est moi qui maîtrise tout. Tu maîtrises les ouragans, tu maîtrises les tempêtes, tu maîtrises le climat, tu maîtrises les étoiles. On est complètement stupide quand on pense comme ça. Et pourtant, notre société nous dirige de cette manière-là. Alors, je crois qu'en tant que chrétien, notre priorité, c'est de reconnaître. Non, je ne suis pas grand-chose. Je suis un peu de poussière, comme dit la Bible. Donc, même Ésaïe 40, il est dit qu'on est... Dieu nous voit comme des fourmis. C'est sympa comme image, hein? D'autres fois, il nous compare à de la poussière, d'autres fois à de la terre, d'autres fois à un vase. Finalement, on n'est pas grand-chose. Et en même temps, Dieu dit qu'il nous a couronnés. Il nous a donné une gloire semblable aux anges dans le psaume 8, justement. Il nous parle que Dieu nous a donné de la dignité, il nous a donné des choses incroyables. Et notre, je crois, notre plus grande force, c'est de dire... Donc, qui je suis, avec l'intelligence, avec les capacités, avec le raisonnement, avec tout ce que tu m'as donné, Seigneur, ben, je te loue, je te bénis. Librement. Et ça encore, c'est la dernière clé. C'est que Dieu nous a laissé libre de louer. Dieu ne va jamais vous obliger à le louer. Jamais, jamais, jamais. Ça ne marche pas. Ça n'intéresse pas à Dieu, des chrétiens automatiques obligés de louer Dieu. Autrement, il nous aurait mis une clé dans le dos, puis il la retourne, et après il fait « Alléluia, Amen, gloire à Dieu ». Il faut retourner la clé un coup parce qu'il est fatigué. Alléluia. Non. Pourquoi? Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est la relation avec nous. Comme je l'ai dit, j'ai 4 enfants. Ce que j'aime, c'est avoir une relation avec mes enfants. Ils sont chacun différents. Mathieu, mon aîné, a 18 ans. La dernière petite fille, Naomi, elle a 7 ans. Donc, je n'ai pas la même relation avec eux. Je n'imagine pas en train de rentrer à la maison après une absence et puis entendre Mathieu ouvrir la porte et me dire, papa, je te salue de la part de tes enfants. Hein? Je suis content de te voir, on est tous contents, mais chacun est occupé. Hein? Non, j'ai envie d'aller voir chacun de mes enfants et de parler avec chacun d'eux. Et chacun va me donner une autre relation et un autre mot et une autre parole. Parce que selon sa relation avec moi est différente. Ma fille de 7 ans, elle ne va pas me parler et me témoigner son affection de la même manière que mon fils de 18 ans. Hein? Et ça, j'ai pu le tester au début. J'étais jeune papa, j'étais tout fou de mes enfants. Alors, une fois, Mathieu, il avait peut-être 3 ans et demi, il jouait dans sa chambre à côté de mon bureau. Puis je dis, Mathieu, viens vers moi. Mathieu jouait au Lego, Playmobil, il était tellement bien occupé, il n'a pas envie de venir. Hein. J'insiste, Mathieu, viens. Il ne vient toujours pas à la chambre. J'ose un peu la voir. Mathieu, viens ici. Bon, il vient quand même, hein. Encore pas mal d'autorité à ce âge-là. Il obéit, et puis il me regarde comme ça, puis qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi que tu m'aimes. Bon, bizarre question. Hein, j'imagine dans sa tête. Je t'aime, papa. Et s'en va. J'étais encore plus frustré après qu'avant. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai voulu essayer de le forcer à me dire quelque chose. Alors que, ce que Mathieu faisait toujours, je rentre, j'étais parti aux courses, aux commissions, au bureau, je rentre, Mathieu m'entend ouvrir la porte. Il pose ses Lego, il pose ses jouets, il court à travers l'appartement et il saute dans les bras. Papa! Il ne dit pas grand-chose. Mais il me montre, il me démontre son affection et son amour. Donc ça, c'est plus fort que tout ce que j'aurais pu lui faire comme parole. Dire, attention, quand je reviens à 5 heures, j'aimerais que tu viennes, tu poses tes jouets, puis que tu me dises lui-même. Hein? Et je vous donne tous ces exemples pour vous dire des fois dans l'église, on fonctionne comme ça. On dit aux gens, attention, dimanche matin, il faudra dire à Dieu que vous l'aimez. Soyez des bons chrétiens. Puis dites-lui comme si, comme ça, et pas comme si, et pas comme ça. Et puis il y en a qui le font très sincèrement, mais il y en a d'autres qui le font parce qu'ils sont obligés, parce qu'on leur a dit de le faire. Donc moi, quand je conduis la louange, quand je conduis les chants, je ne veux jamais obliger l'Église à le faire. Ça serait ridicule. C'est facile, j'ai le micro, je suis devant. Je peux vous dire, levez-vous, chantez, levez les mains, taisez-vous, priez, assis, couchez, debout, chantez, priez. Hein? C'est facile. Mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est que même si je me tais, vous louiez Dieu. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui coordonne un peu les choses. On a besoin, quand on est en communauté, les uns les autres, s'encourager, et puis il y a des dons, des ministères. Voilà. Mais moi, je vous offre juste le temps de louange. Je vous accompagne avec mon piano, avec mes capacités. Mais ce que j'ai envie, c'est que vous louez Dieu. Parce que moi, de toute façon, si vous ne voulez pas le faire, moi, je vais le faire. Hein? Et je le dis sans critique envers vous, envers qui que ce soit. Je le dis de manière générale. Et je communique souvent, partout. Je vais dans un endroit, puis des fois, je suis dans un endroit où personne n'a envie de louer Dieu, parce que ce n'est pas des chrétiens. Mais moi, je vais le faire quand même. Donc, quand je suis avec des chrétiens, avec l'Église, je m'attends à ce qu'ils louent Dieu. Ça me semble normal. Et encore en plus, le dimanche matin, on appelle ça un culte. Hein? Le culte, c'est rendre le culte à Dieu qui lui est dû. Donc, comment est-ce qu'on rend un culte à Dieu? Il y a beaucoup de manières, en venant s'asseoir sur une chaise, mais je crois qu'il y a plus que ça. Hein? Il y a plus que nos offrandes. Il y a plus que de venir. Il y a d'offrir ce qu'il y a dans nos cœurs, par nos prières, par nos chants, par notre amour pour Dieu. Et parfois, des fois, ça peut être dans notre offrande. Ça peut être dans nos gestes, dans nos attitudes, dans nos paroles. Et bien sûr que ça va plus loin aussi que le culte. Parce que tout ce qu'on vit dans le culte, comme je l'ai dit, c'est le rassemblement de ce qu'on vit dans nos vies avec Dieu. Donc Dieu s'attend à cela. Mais soyez libres. Et dans cette liberté, vous faites le choix. Et quand moi je vois mes enfants qui librement viennent me dire quelque chose, ou m'offrir un cadeau, ah, ma fille, elle aime tellement donner des cadeaux, elle attend que les anniversaires pour offrir des cadeaux. Pendant 2 mois, elle dit, ah, ça sera bientôt l'anniversaire, Siméon, il faut que je lui achète quelque chose. Elle prend ses petits sous pour lui acheter un carambar, un truc, mais elle a un tel désir de faire plaisir, de donner quelque chose. Donc elle se prépare à donner. Elle le fait librement, c'est pas moi qui dis, attention, il y a ton frère qui est son anniversaire, préparez des cadeaux. Ça n'aurait pas du tout le même poids, le même sens, justement. En plus, après, quand elle fait le paquet, elle colle encore une pièce de 20 centimes avec le scotch sur le paquet. Vraiment. Et ça a de la valeur. Hein? Ça a de la valeur parce qu'elle donne de ce qu'elle a, elle le donne librement. Et je crois que pour Dieu, c'est exactement ça notre louange. Dieu n'attend pas à ce que vous chantiez comme quelqu'un d'autre, à ce que vous fassiez la même offrande que quelqu'un d'autre. Chacun a des dons différents, des capacités différentes. Mais si vous donnez ce que vous avez, avec qui vous êtes, c'est ça que Dieu va recevoir. Ça que Dieu va accepter. Et j'aimerais vous encourager. Aussi en tant qu'église, vous pouvez vous dire, ah mais l'autre église, ils font comme ça, telle église, ils font comme ça. Chaque église, chaque communauté a sa manière de le faire, de le donner. Il ne s'agit pas de comparer, de faire comme tel Américain, ou tel Anglais, ou telle autre église, ou telle autre dénomination. Mais si vous offrez ce qui est dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos émotions, dans tout ce que vous êtes, et que vous mettez Dieu à sa place, et que vous êtes à votre place, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Et ça ne sera que le début de tout le reste. Parce qu'ensuite, on peut entrer dans le ministère, dans l'évangélisation, dans l'intercession. On se met bien à notre place. Seigneur, c'est toi le maître. C'est toi le Seigneur. Moi, je suis ton enfant. Tu m'as créé et je te bénis pour cela. Et je veux te suivre et je veux te laisser être le patron. Hein? Et c'est ça, finalement, aussi, notre grande lutte à tous, c'est qu'on a tellement appris à être libre qu'on s'est même détaché de Dieu. Même des fois, en tant que chrétien, on passe des temps entiers, des semaines, des mois, sans s'occuper de Dieu. Tout à coup, ah oui, il ne faut pas que j'oublie, il y a le Seigneur. Puis on revient. Hein? Apprendre la dépendance du Maître dans la liberté. À l'opposé de ce monde et de notre ennemi qui, lui, veut nous rendre esclaves. Il veut nous mettre dans l'esclavage et nous dominer parce qu'il n'a pas d'amour. Donc quand il nous a esclaves, là, il nous tient. Dieu ne veut pas nous tenir d'une manière comme ça, esclavage. Il veut nous tenir d'une manière libre par des filets d'amour, par des cordages d'amour qui nous attirent. À lui. Alors vraiment, que ces paroles vous encouragent et que vous soyez tous, toujours des adorateurs pour lui. Je vous invite à prier pour terminer cette partie. Seigneur, je te bénis parce que tu nous as attirés à toi. Je te bénis parce que tu nous as aimés et parce que tu nous aimes encore. Et je te prie, Seigneur, que chacun de nous puissions être à notre place. Nous positionner vraiment en tant que tes enfants, tes créatures. Un peu de poussière, puis en même temps, des créatures merveilleuses que tu as créées. Et avec ce que tu nous as donné, Seigneur, nos corps, nos mains, nos pensées, nos bouches, tout ce que nous sommes, nous voulons te bénir, te louer ce matin. Et te dire que tu mérites cette louange, Seigneur. Et que tu mérites d'être à ta place, que tu es vraiment le Seigneur. Nous confessons ta seigneurie, ton autorité, le fait que tu es le créateur de la terre et des cieux. Et nous le reconnaissons ensemble ce matin. Amen. Amen. Amen.